Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Bien, pour cette dernière causerie, je vais, je pense, faire les choses assez rapidement, de façon à laisser du temps, si vous le souhaitez, pour des questions. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous aurez un petit peu de congé pour vous préparer à la célébration de l'Eucharistie. La dernière partie de l'encyclique Humanae Vitae est consacrée à des directives pastorales. Nous en avons déjà parcouru quelques-unes hier. Mais je passe au paragraphe 22, qui est un rappel important, je l'ai touché déjà hier, à savoir que il y a quelques hypocrisies à dénoncer des dérives sur le plan de la morale sexuelle, alors que par ailleurs on laisse des flots de pornographie se répandre sur Internet, et cela conditionne les comportements de pas mal de gens qui fréquentent ces sites ou bien qui y sont même asservis, car il y a une forme d'addiction à cela dans nos sociétés. D'où au paragraphe 23 un appel lancé au pouvoir public. Mais ce que le pape écrivait là en 1968, aujourd'hui, susciterait de la part des pouvoirs publics simplement de la moquerie. Quand, par exemple, il est écrit aux gouvernants, qui sont les principaux responsables du bien commun et qui peuvent tant pour la sauvegarde des valeurs morales, nous disons, ne laissez pas se dégrader la moralité de vos peuples. N'acceptez pas que s'introduise par voie légale dans cette cellule fondamentale de la société qu'est la famille des pratiques contraires à la loi naturelle et divine. Tout autre est la voie par laquelle les pouvoirs publics peuvent et doivent contribuer à la solution du problème démographique. C'est la voie d'une prévoyante politique familiale, d'une sage éducation des peuples, respectueux de la loi morale et de la liberté des citoyens. En effet, j'ai déjà touché cette question, quand on parle de surpopulation, on suggère qu'il y a il n'y a pas assez de ressources pour la population en croissance, et qu'on va se retrouver dans la disette. Alors, il y a deux solutions à cela, c'est diminuer la population, ou bien c'est augmenter les ressources, développer l'économie. Et hélas, beaucoup de pouvoirs publics, nationaux, internationaux également, pensent surtout à obliger par la contraception ou par la stérilisation, contraindre à la diminution de la population plutôt que de travailler au développement économique des peuples. Mais j'y ai fait allusion, il y a en matière démographique, il y a en matière de parenté responsable des pays, notamment en Afrique, qui ont une politique sage, celle que j'ai résumée hier par les trois lettres A, B, C, abstinence, être fidèle, be faithful, et en cas de nécessité, le recours au condom ou préservatif. Le paragraphe 24 est consacré à un appel aux hommes de science. Et donc, heureusement, il y a quelques universités dans le monde qui ont accepté de chercher à améliorer les méthodes non contraceptives de régulation des naissances. Je vais citer quelques universités britanniques, une certaine Anna Flynn qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, à Birmingham, en Angleterre, ou bien dans le monde germanophone, en Allemagne. Et Paul VI encourage cette recherche. Nous voulons maintenant exprimer nos encouragements aux hommes de science qui peuvent beaucoup pour la cause du mariage et de la famille et pour la paix des consciences. Si par l'apport convergent de leurs études, ils s'appliquent à tirer davantage au clair les diverses conditions favorisant une saine régulation de la procréation humaine. C'est une citation du Vatican II. Et le pape ajoute, il est souhaitable en particulier que selon le vœu déjà formulé par Pie XII, la science médicale réussisse à donner une base suffisamment sûre à une régulation des naissances fondée sur l'observation des rythmes naturels. Bien, ce vœu-là a été exaucé par quelques centres universitaires qui n'étaient pas spécialement catholiques, mais qui ont pris au sérieux cette question. Et actuellement, nous disposons de méthodes non contraceptives qui ont une fiabilité égale, voire supérieure à celle de la contraception hormonale. Ainsi, les hommes de science, et en particulier les chercheurs catholiques, contribueront à démontrer par les faits que, comme l'Église l'enseigne, il ne peut y avoir de véritable contradiction entre les lois divines qui règlent la transmission de la vie et celles qui favorisent un authentique amour conjugal. Le paragraphe 25 est adressé aux époux chrétiens. Je le résume, c'est un paragraphe où le pape d'y compter beaucoup sur le témoignage que peuvent donner les époux chrétiens en ce domaine, puisqu'ils sont soutenus par la grâce d'un sacrement. Et un sacrement est un signe efficace de la présence de Dieu à la vie humaine, et dans le cas du mariage, à la vie des époux. Par lui, les époux sont affermis et comme consacrés pour accomplir fidèlement leur devoir pour réaliser leur vocation jusqu'à la perfection. Alors le pape reconnaît que c'est pas toujours facile pour des époux de gérer leur fécondité en fidélité à la loi naturelle, qui est aussi l'enseignement de l'Église. Nous n'entendons aucunement dissimuler les difficultés parfois graves qui sont inhérentes à la vie des époux chrétiens. Pour eux, comme pour chacun, étroite citation de Matthieu 6, 14, pour eux comme pour chacun, étroite est la porte et resserrée est la voie qui conduit à la vie. Mais ils peuvent, les époux chrétiens, avoir la certitude que s'ils cherchent à s'engager dans cette voie étroite, exigeante, la grâce de Dieu ne leur manquera pas. Car l'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ensuite, il y a un appel à l'apostolat entre foyers. Alors, il y a pas mal d'associations qui existent où des foyers se soutiennent dans la vie chrétienne. Équipe Notre-Dame, etc. Et d'autres encore. Et donc il y a un appel spécial du pape à un apostolat entre les foyers. Parmi les fruits qui proviennent d'un généreux effort de fidélité à la loi divine, l'un des plus précieux est que les conjoints eux-mêmes éprouvent souvent le désir de communiquer à d'autres leur expérience. Ainsi vient s'insérer dans le vaste cadre de la vocation des laïcs une nouvelle et très remarquable forme de l'apostolat du semblable par le semblable, des foyers par d'autres foyers, ce sont les foyers eux-mêmes qui se font apôtres et guides d'autres foyers. Et cela sans conteste, parmi tant de formes d'apostolat, une de celles qui apparaissent aujourd'hui les plus opportunes. Alors, je ne sais pas où en est la situation actuellement en France, dans les associations de foyers chrétiens. Quand j'étais professeur à l'université à Louvain, en Belgique, j'accompagnais une équipe de foyers, l'équipe Notre-Dame, mais j'ai rencontré à l'époque peu de motivation dans ce domaine-là. Au contraire, ils prenaient assez une distance par rapport à l'encyclique Humanae Vitae, se laissait inspirer à l'époque par le catéchisme hollandais, qui n'était pas exemplaire en cette matière et en beaucoup d'autres. Bon, il ne remplissait pas vraiment ce rôle, mais je pense qu'il existe des groupements de foyers qui sont attentifs à cela. Le paragraphe 27 est un appel aux médecins et au personnel sanitaire. Et ça suppose d'avoir des médecins qui ont des convictions religieuses ou philosophiques fortes, qui ont aussi la connaissance des méthodes dites naturelles non contraceptives. Beaucoup de médecins sont peu formés dans ce domaine-là. Mais s'ils le sont, et si avec eux le personnel sanitaire est au courant, comme ce pourrait et devrait être le cas dans des cliniques maison médicale d'inspiration chrétienne, comme il en existe pas mal, alors ce serait un très très beau service qu'ils peuvent rendre. Ensuite, il y a au paragraphe 28, un paragraphe que j'ai lu entièrement l'autre jour, un appel aux prêtres, un appel, je vous l'ai dit, qui m'a profondément touché et qui a contribué beaucoup à orienter ma vie sacerdotale et aussi ma vie de travail intellectuel. J'ai été touché par cet appel que le pape adressait avec beaucoup d'humilité aux prêtres, reconnaissant que peut-être dans sa manière de traiter la question il y avait quelques imperfections, mais il demandait aux prêtres, surtout à ceux qui sont formés théologiquement et philosophiquement, de ne pas s'arrêter à ces déficiences éventuelles, mais de travailler à faire connaître et aimer cette encyclique. Cet assentiment est dû, je cite quand même une phrase ou deux, cet assentiment est dû, vous le savez, non pas tant l'assentiment à l'enseignement de l'Église, non pas tant à cause des motifs allégués, des arguments invoqués dans le texte et qui peuvent éventuellement être déficients sur certains points, ce qui était le cas. Il est dû, cet assentiment, non pas tant à cause des motifs allégués que plutôt en raison de la lumière de l'Esprit Saint dont les pasteurs de l'Église bénéficient un titre particulier pour exposer la vérité. Et donc votre première tâche, spécialement pour ceux qui enseignent la théologie morale, est d'exposer sans ambiguïté l'enseignement de l'Église sur le mariage. Ça a bouleversé ma vie et je connais quand même un certain nombre de prêtres formés intellectuellement en philosophie ou en théologie morale qui ont pris à cœur cet appel et qui accompagnent des mouvements pour mieux connaître et apprécier cette encyclique. Enfin, il y avait au paragraphe 30 un appel aux évêques qui, dans les pays d'Occident, n'a pas été fort entendu, il faut le reconnaître. Les évêques ont eu peur d'une débandade. Il y a eu des gens qui ont quitté l'Église à cause de ça, mais peut-être ne l'auraient-ils pas quitté si des évêques, de manière intelligente, éclairée, proche des gens, avaient traduit dans un langage plus simple encore le message de l'encyclique. En tout cas, en Europe occidentale, beaucoup d'évêques ont pris une position de repli, bon, malgré une invitation pourtant très forte qui leur était adressée. Chers et vénérables frères dans l'épiscopat, avec qui nous partageons de plus près le souci du bien spirituel du peuple de Dieu, c'est à vous que va notre pensée respectueuse et affectueuse au terme de cette encyclique. Nous vous adressons à tous une pressante invitation. Avec vos prêtres, vos coopérateurs, vos fidèles, travaillez avec ardeur et sans relâche la sauvegarde et la sainteté du mariage pour qu'il soit toujours davantage vécu dans toute sa plénitude humaine et chrétienne, etc. Et enfin, je lis pour conclure le dernier paragraphe, appel final. Vénérables frères, chers fils et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, grande est l'œuvre d'éducation, de progrès et d'amour à laquelle nous vous appelons. Sur le fondement de l'enseignement de l'Église, dont le successeur de Pierre est, avec ses frères dans l'épiscopat, le dépositaire et l'interprète. Grande œuvre en vérité. Nous en avons eu l'intime conviction, pour le monde comme pour l'Église, puisque l'homme ne peut trouver le vrai bonheur auquel il aspire de tout son être que dans le respect des lois inscrites par Dieu dans sa nature, en comprenant nature dans le sens que nous avons expliqué, sa nature au sens large, dans sa nature, et qu'il doit observer avec intelligence et amour. Et sur cette œuvre, cette grande œuvre, nous invoquons, comme sur vous tous, et de façon spéciale sur les époux, l'abondance des grâces du Dieu de sainteté et de miséricorde, en gage desquelles nous vous donnons notre bénédiction apostolique. Alors j'espère que ce 50e anniversaire de l'encyclique Humanae Vitae va donner l'occasion dans l'Église de faire connaître ce message. Je sais qu'il y a des évêques qui sont désireux de faire cela. J'aurai encore une session sur ce sujet en juillet, je pense, qui m'était demandé par des compatriotes belges, francophones et néerlandophones. Et je pense qu'ils viendront assez nombreux. C'est eux qui m'ont demandé une session sur Humanae Vitae. Et bien sûr, elle sera ouverte à nouveau aux pèlerins de langue française, les néerlandophones jouissant d'une traduction simultanée pour cela. Alors j'espère qu'il y aura d'autres initiatives dans ce sens. Et maintenant, comme nous avons un peu de temps, nous pouvons, si vous voulez, répondre à des questions que vous souhaiteriez me poser.